Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'Égypte serait-elle au bord de la guerre civile? Les risques de dérapage sont bien réels si la tension politique et sociale ne baisse pas. Nous vous proposerons un regard chrétien sur la situation dès le début de ce magazine. Vous entendrez également Robert Badinter, l'ancien ministre français de la Justice, est intervenu à une conférence à Rome sur la peine de mort organisée par la communauté catholique de Sant'Egidio. Dans cette émission, nous verrons par ailleurs qu'il n'y a pas qu'en Asie ou en Afrique que les chrétiens ont peur. En Écosse, une culture anticatholique se développe. Elle se manifeste par des insultes, mais aussi par des agressions physiques. Le nouveau patriarche copte orthodoxe Tawadros II aurait dû rencontrer ce mardi une importante délégation catholique égyptienne. L'objectif était notamment d'adopter une position commune dans la situation politique actuelle. Eh bien, cette réunion a été reportée au 11 décembre en raison des troubles dans la capitale. Les opposants au président Mohamed Morsi ont été appelés à manifester à travers l'Égypte contre le décret donnant de vastes pouvoirs supplémentaires au chef de l'État. L'évêque catholique d'Assiout, Mgr Kyrillos William, a expliqué qu'il aurait été imprudent de tenir ce sommet dans un tel contexte. Le patriarche Tawadros a par ailleurs annulé une autre rencontre prévue avec des membres de la section spirituelle des frères musulmans. Actuellement, les inconnus sont nombreux sur le sort politique de l'Égypte après le coup de force constitutionnel de Mohamed Morsi. Le pays se dirige-t-il vers une théocratie? Une chose est sûre, en tout cas, depuis la révolution du 25 janvier 2011, un verrou a sauté. Plus personne n'acceptera dorénavant qu'on le prive de ses droits. Comment les chrétiens alors vivent-ils ces heures fébriles? Quel est leur rôle dans l'Égypte d'aujourd'hui? Le père Camille William revient sur ce moment décisif qu'est en train de vivre l'Égypte ces jours-ci.
C'est un moment historique parce que ça décide vers quelle Égypte on ira. Un Égypte théocratique ou un Égypte démocratique. Si les libéraux arrivent à convaincre l'autre partie d'être moins théocratique et plus démocratique, alors on a gagné. Sinon, on a tout perdu.
Quelle est votre plus grande crainte par rapport à la Constitution ?
On a besoin d'une constitution civile, démocratique. Mais on craint d'avoir, si on continue en cette direction, on aura une constitution islamique qui consacre la théocratie.
Comment vous interprétez cette déclaration constitutionnelle du président Morsi?
C'est une stratégie d'islamisation parce qu'il réclame l'immunité de toutes ses décisions, l'immunité contre les tribunaux de la Commission constitutionnelle et l'immunité pour la deuxième branche du Parlement. Parce que Majlis Shura, le conseil consultaire, le Sénat, est formé d'une très grande majorité islamiste. Il veut garder cette majorité islamiste parce qu'il n'est pas sûr du pourcentage des islamistes qui seront dans le nouveau Parlement. Et alors, pour cela, il consacre tous les moyens pour arriver à cette constitution et cette législation islamistique, théocratique.
Il semble qu'il y ait un mouvement depuis la révolution de l'an dernier, des jeunes chrétiens, des jeunes coptes, qui sont vraiment sortis des églises pour investir l'espace public, pour aller sur la place Tahrir. Aujourd'hui, c'est une nouveauté, c'est une révolution d'une certaine manière à l'intérieur des chrétiens.
Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, parce que, à mon avis, la révolution du 25 janvier, c'est une révolution contre le paternalisme. Paternalisme de l'État, paternalisme de l'Église, paternalisme de la famille. Et alors, toutes les barrières ont été abattues. Malheureusement aussi, la barrière du respect. Alors, les chrétiens ont pris conscience d'être citoyens qui ont des droits à réclamer. Et ils le réclament pas devant l'Église, comme il faisait autant, mais maintenant devant le Parlement, devant à la route, à place de Tahrir, à Maspero, là où il se trouve.
Et cette révolution contre l'autorité, c'est un véritable défi aujourd'hui pour les autorités ecclésiastiques, les évêques, les prêtres?
Oui, et il faut que l'autorité religieuse, chrétiens, et Lazare aussi, au même niveau, qui se trouve une nouvelle formule de rapport avec ses fidèles.
Est-ce qu'un État islamiste peut tenir la route, selon vous ?
Je crois que si on arrive à avoir une concession théocratique islamiste, ça durera peu. Parce que maintenant, tous sont conscients de ce droit, soit chrétiens que musulmans. Une partie des islamistes serait contents si on a cette constitution. Mais je crois que la plupart des musulmans n'accepteraient jamais une constitution théocratique islamique. Il faut sensibiliser les jeunes gens de leurs droits. Et quand ils réclament leurs droits, le droit du citoyen, pas confessionnel. Par exemple, pour bâtir une église, je ne parle pas du droit religieux, mais du droit du citoyen qui a droit à pratiquer sa religion comme citoyen. Et on a eu une grande faute. On a fait de cette réclamation une réclamation confessionnelle. Si on partait d'une réclamation du citoyen, on aurait beaucoup plus de sympathisants musulmans avec.
Est-ce que ces jours de manifestation anti-Morsi peuvent recréer un ciment entre les différentes composantes chrétiennes égyptiennes ?
Avec les chrétiens orthodoxes, le rapprochement a été il y a 2 ans. Parce que, comme chrétiens, on est tous menacés dans notre existence. Alors, on a oublié le petit ou le grand problème entre nous et on tient ensemble. Et cette déclaration du président du 22 novembre a rapproché pas seulement les chrétiens avec les libéraux, mais tous les libéraux entre eux. Et alors, on a maintenant un poids plus élevé dans la société, beaucoup plus fort et consistant que le poids des islamistes eux-mêmes. Je crois que les islamistes ont appris ça.
Le père Camille William, interrogé au Caire par Olivier Benel. Direction la Chine, à présent, les noms des nouveaux maîtres du pays pour la décennie à venir ont été dévoilés, vous le savez, il y a quelques jours, à l'occasion du 18e congrès du Parti communiste chinois, à savoir les membres du comité permanent du bureau politique, le vrai cœur du pouvoir chinois. Mais cette nouvelle scène politique ne devrait guère changer la situation de l'Église catholique de Chine et ses rapports avec l'État. C'est en tout cas l'avis d'un prélat chinois de la curie romaine, Mgr Savio On Taifai, secrétaire de la puissante Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Il ne se passera rien, tout au moins à brève échéance, souligne Mgr On, car la politique religieuse n'est pas l'une des priorités immédiates du nouveau gouvernement. Ils ont bien d'autres soucis. La christianophobie, on l'a déjà dit, n'épargne pas l'Europe, bien au contraire. En Écosse, notamment, les catholiques sont victimes de violences, alors qu'ils ne représentent que 16% de la population. À tel point que l'église locale tire la sonnette d'alarme. Olivier Tosserie.
Cela dure depuis quelques années, mais le dernier rapport officiel est alarmant. 509 agressions anticatholiques pour la période 2011-2012, soit 58% de l'ensemble des violences sociales. D'une manière générale, les attaques à caractère religieux ont augmenté de 26% en Écosse. Cela peut aller d'une simple injure jusqu'à la violence physique. Les incidents sont particulièrement fréquents lors des matchs de foot, au détriment des supporters du Celtic, un club catholique fondé en 1888 pour les immigrés irlandais qui avaient fui la famine. Ils n'avaient pas le droit à l'époque d'adhérer au club des Rangers, mais la violence au milieu sportif ne représente que 15% des épisodes de violence sectaire en Écosse. Le président de la conférence des évêques, Mgr Philippe Tartaglia, a demandé aux autorités de prendre des mesures efficaces pour assurer la protection de la communauté catholique. Selon lui, un climat anti-religieux se développe et les croyants vivent dans l'insécurité. Les catholiques tiennent bon, ils veulent participer à la vie de la société, mais l'archevêque de Glasgow estime que la diffusion d'une culture anticatholique est une réalité que le gouvernement va devoir affronter. L'année dernière déjà, Mgr Tartaglia avait affirmé que le sectarisme institutionnel du passé, qui discriminait les catholiques dans le monde du travail et vis-à-vis de la justice, avait cédé la place aujourd'hui à une discrimination sociale encore plus sournoise et tenace, qui s'intensifie, une hostilité systématique qui atteint aujourd'hui des niveaux inquiétants.
Un cardinal italien a été déclaré à titre posthume juste parmi les nations. Il s'agit de la plus haute distinction décernée par Israël à ceux qui ont sauvé au péril de leur vie des Juifs pendant la Shoah. Décédé en 1961, Elia Angelo Dalla Costa était archevêque de Florence pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon le mémorial Yad Vashem, il a mené de front le sauvetage de centaines de Juifs, 300 ou 400 au moins, encourageant la participation du clergé aux opérations de sauvetage. L'archevêque a ainsi recruté des sauveteurs au sein du clergé, rédigé des lettres qui ont ouvert à ses auxiliaires les portes des monastères et des couvents et leur ont permis d'aller implorer les responsables d'abriter des Juifs. Il a lui-même hébergé des Juifs en fuite dans son palais pendant de brèves périodes, le temps qu'ils trouvent des endroits sûrs. Selon un de ses biographes, le cardinal Dalla Costa était avant tout un homme de foi et de prière, un homme de Dieu qui a fait preuve d'un extraordinaire courage intérieur. Dès 1939, à l'époque de la visite d'Hitler à Florence, il ferma le palais épiscopal et refusa d'exposer les drapeaux italiens et allemands. À plusieurs reprises, il éleva sa voix pour condamner les lois raciales et la pratique de la torture au nom de la charité évangélique. Pour un monde sans peine de mort, la communauté catholique de Sant'Egidio avait organisé un congrès international de haut niveau ce mardi à Rome, rassemblant des ministres de la justice pour la 7e fois avec la collaboration de la Commission européenne et de la Fédération helvétique. Objectif, mettre au point de nouvelles stratégies, des parcours législatifs et sociaux et des campagnes de sensibilisation de l'opinion publique. Parmi les participants à cette 7e rencontre, l'avocat et homme politique français Robert Badinter, qui lorsqu'il était garde des Sceaux en 1981, a obtenu l'abolition de la peine de mort en France. Il est également connu pour son combat en faveur de la réinsertion des détenus.
Notre combat, c'est l'abolition universelle. Sant'Egidio mène ce combat. Il est normal que je sois là. Je trouve ça très bien de la part de la communauté. Très bien. Nous avons tellement progressé, état après état, victoire après victoire. Et ça, c'est les militants. Et les grandes forces spirituelles, dont l'Église catholique.
Vous pensez que le moratoire pourra arriver, par le moratoire, l'abolition totale de la peine de mort dans le monde, est-ce que ça arrivera là maintenant et par rapport à des pays comme la Chine, l'Iran?
Les États qui n'abolissent pas et n'exécutent pas aboutissent à une situation humaine parfois critiquable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, on n'exécute pas? Ça veut dire qu'on place celui qui a été condamné dans une situation affreuse. 10 ans, 20 ans dans un quartier de condamnés à mort. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que c'était en soi un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Vivre 20 ans dans un quartier de condamnés à mort est un supplice. La situation actuelle, on a vu les progrès, vous avez la Chine, vous avez les États-Unis qui vont vers l'abolition par morceaux, par petites filles. Si. Ah oui, ils ont diminué le nombre par moitié. Non, non, non. Oui, non, c'est 50 exécutions par rapport à la Chine. Les autres, c'est... Mais le vrai problème pour moi, c'est ce qui se passe avec les États intégristes musulmans. Parce que là, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Pakistan, partout où on se réclame avec virulence du respect de la charia pure et dure, partout vous avez non seulement la peine de mort, mais une augmentation de la peine de mort. Les Iraniens ont augmenté depuis 3 ans tellement le nombre de condamnations et d'exécutions, y compris de femmes, que à population égale, ils exécutent plus que les Chinois. Aujourd'hui, en proportion, les Iraniens exécutent plus que les Chinois. C'est là où il faut porter, nous, l'action, la conviction. Les Saoudiens, je lisais encore les analyses faites par les ONG, on a exécuté en Arabie Saoudite une femme pour sorcellerie. Sorcellerie. Enfin, vous imaginez le pétrole, la puissance, le commerce, les intérêts économiques, les investissements, on est très discret.
Robert Badinter, interrogé ce mardi à Rome. Et à Paris, Sant'Egidio organise un rassemblement pour l'abolition universelle de la peine de mort vendredi en début de soirée Place des Vosges, dans le cadre de la journée internationale Ville pour la vie, Ville contre la peine de mort. Une initiative qui a reçu l'année dernière les encouragements du pape. Benoît XVI espère que de telles campagnes permettront d'éliminer la peine de mort dans un nombre croissant de pays et de conformer le droit pénal à la fois à la dignité humaine des prisonniers et au maintien effectif de l'ordre public. Le jeudi 29 novembre aura lieu la journée Why Poverty, une journée pour tenter de susciter un débat autour de ce problème central qu'est la pauvreté. Il s'agit d'une initiative de l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion. Radio Vatican vous propose à cette occasion une série de reportages sur les luttes contre la précarité à travers le monde, des combats auxquels s'associe bien sûr l'Église catholique. Aujourd'hui, nous nous intéressons au Tchad. L'année dernière, le Tchad a été touché de plein fouet par la sécheresse. Une situation terrible pour ce pays qui repose avant tout sur une production fluviale, c'est-à-dire basée sur la pluie. En 2011, le Tchad a connu un déficit céréalier global de 455 000 tonnes. Les prix céréaliers ont, eux, augmenté en moyenne de 50%. Un choc, alors que 80% de la population vit avec moins d'un dollar par jour. La crise n'a pas épargné le petit village de Crégané, situé en plein Sahel. Pourtant, grâce à l'action de Caritas Suisse, les exploitants ont pu faire face, tant bien que mal, à la crise alimentaire. Justine Vassogne.
L'année 2011 n'a pas été facile pour les habitants de Crégané. La pluie n'est pas assez tombée. L'eau, c'est pourtant un élément vital pour ce village. Jean Ngamine est le représentant local de la Caritas Suisse au Tchad.
Dans ce petit village, dans la région du Guéra, ce sont des petits exploitants qui n'ont que leur famille et leur force de travail pour produire. Ils produisent des céréales en pluviale ou en contre-saison, et des oléagineux comme l'arachide, le sésame ou les haricots. Les femmes produisent en particulier du gombo autour des cases pour la sauce. Et toute cette production dépend très fortement de la pluviométrie, surtout que les sols dans cette zone qui est dans la zone sahélienne, les sols sont déjà assez pauvres. Et donc, lorsque la pluie ne marche pas comme l'année dernière, leur situation est assez critique. Et aujourd'hui, justement, ces producteurs font face à la crise alimentaire à cause de la sécheresse de l'année 2011.
C'est pour éviter cet enchaînement tragique, la sécheresse suivie de la crise alimentaire, que la Caritas est présente à Crégané, pour aider les exploitants au pire moment de la crise, mais aussi pour leur apprendre à ne plus être si dépendants de la pluie. Jean Ngamine.
On distribue des vivres aux personnes et aux ménages vulnérables. Nous distribuons aussi des semences de cultures de contre-saison qui poussent avec le froid et avec l'eau capillaire du sol et qui permet de produire du sorgho en saison sèche. Cette culture de contre-saison a un double rôle, de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire des personnes, mais également d'apporter un appoint fourrager au bétail. Les bénéficiaires des actions retournent une partie double des semences qu'on leur a données et ils constituent au niveau local un stock pour l'avenir.
Envisager l'avenir sereinement, c'est aussi ça, l'action de la Caritas. Une action qui a fait retrouver le sourire aux habitants de Crégané. C'est ce que nous explique Jean Ngamine.
Ils sont très optimistes. D'abord, ils ont l'habitude de se débrouiller tout seuls. Ce n'est pas souvent que l'aide de l'État parvient dans des situations assez difficiles. Or, cette année, la manifestation de la solidarité est allée jusqu'à eux. Ils ont pu avoir de la nourriture et donc ils ont permis aux hommes de rester sur place. Ils savent que maintenant, ils peuvent s'en sortir. Et l'une des choses qu'on rencontre, c'est qu'ils préparent la rentrée scolaire pour les petits-enfants qu'ils auraient pu utiliser si cette aide n'est pas venue pour aller cueillir, faire la collecte des graines de graminées sauvages ou alors vendre leur force de travail dans les ménages les plus nantis au détriment de l'éducation, d'aller à l'école. Et donc, ils sont dans un esprit très positif, très optimiste et ils nous ont remerciés sincèrement.
L'école et l'espoir ont donc repris à Crégané en attendant que la pluie cette année soit vraiment de la partie.
À Madagascar, le Conseil des Églises chrétiennes a décidé de revenir revenir sur la scène politique. Par le passé, il a plusieurs fois joué un rôle important dans la résolution des conflits politiques. Et aujourd'hui, l'Église espère réussir là où tous les autres ont échoué, sortir le pays de la crise. Elle annonce qu'elle entame une nouvelle médiation. Partis politiques, mais aussi sociétés civiles et armées, sont appelés à se réunir autour d'une même table pour sortir le pays de l'impasse politique. Il n'y a pas encore de calendrier pour ces rencontres. Les négociations sont en cours, mais les églises chrétiennes espèrent réunir près de 150 entités. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis.